France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Beaucoup de choses ont été dites sur la musique. Elle est le bruit qui pense, selon Victor Hugo et Pourniche. La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. Il faudrait donc de la musique partout, même dans les lieux où cela semble impossible, déplacé. Et pourtant, dans les camps, il y a de la musique, comme le remarquent Gilles Deleuze et Félix Guattari. Dans Mille plateaux, un enfant, dans le noir, saisi par la peur, se rassure en chantonnant. Il marche, s'arrête au gré de sa chanson, perdu. Il s'abrite comme il peut ou s'oriente tant bien que mal avec sa petite chanson.
Tout d'un coup, dans cette espèce d'horreur, j'ai entendu les mots « Madame Butterfly ».
Un officier allemand excessivement bon et gentil m'avait en cachette donné du papier à musique, des gommes et des crayons, et donc je pouvais, pendant les heures où il n'y avait pas de corvée, travailler pour moi.
Dès les premiers convois, il y a tout de suite des gens qui sont musiciens qui arrivent.
On faisait 17 heures de musique par jour.
Ça a été simplement la nécessité de témoigner qui a été l'élément de survie.
Élise Petit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes musicologue, directrice du département de musicologie à l'université Grenoble-Alpes. Et Cécile Quenet, bonjour.
Bonjour.
Musicologue, également maîtresse de conférence à l'université de Lorraine. Et avec vous deux, vos voix et vos oreilles, nous allons évoquer cette musique dans les camps nazis. Déjà, à quel moment a-t-on découvert qu'il y avait de la musique? Ou pour le dire autrement, à quel moment chercheurs, chercheuses ont commencé à s'intéresser à cette question?
Alors, on l'a su très rapidement dans des témoignages de survivants, parce que quand ils sont rentrés des camps, parmi les questions qu'on leur posait, c'était est-ce que vous avez essayé de résister en jouant de la musique ou résister par l'art? Et en général, ils se sont un peu conformés à ce qu'on attendait d'eux au niveau des réponses, et ils ont beaucoup parlé du rôle résistant de la musique. Et ils ont plutôt passé sous silence les musiques qui étaient utilisées à des usages plutôt destructeurs. Et ça, on s'en est rendu compte au fil des années 80, quand des témoignages un peu plus non attendus sont sortis, et les chercheurs se sont intéressés à ça, et c'est un très long travail parce qu'en fait il faut lire des milliers de témoignages pour trouver parfois une seule phrase. Mais voilà, depuis les années 90, l'usage torsionnaire est beaucoup mieux connu.
Avec ici cette musique utilisée de manière différente, hein. Vous venez juste de l'évoquer, Élise Petit, mais il y a de ça, c'est cette musique qui est une contrainte, qui participe à l'oppression, et puis dans le même temps, c'est la musique de la résistance, celle que vous avez notamment étudiée, Cécile Quenet.
Oui, tout à fait, puisque il y a à la fois la musique qui est contrainte, qui accompagne le travail, qui cadence les gestes, qui accompagne donc la sortie du camp pour les colonnes de travail, et puis et qui est insupportable, qui reste insupportable en fait pour les détenus. Et Primo Levi le raconte très bien dans Si c'est un homme. Il dit, ces marches sont vraiment la dernière chose que nous oublierons. Et on voit bien à quel point le sonore reste, parce que on ne peut pas fermer les yeux, les oreilles n'ont pas de paupières, et donc c'est gravé. Il dit c'est vraiment gravé dans notre esprit, et c'est l'expression de la folie géométrique, comme il dit, des camps. Comment on nous a déshumanisés, comment on nous a détruits en tant qu'hommes avant de nous faire mourir. Et donc ça, c'est vraiment un témoignage, à mon avis, très important, qui montre que ces musiques qui ont pu torturer, détruire psychologiquement, sont omniprésentes dans les camps.
Et on va voir ça aujourd'hui dans le cours de l'histoire, réfléchir à cette résistance et à cette oppression par la musique, parce qu'on a du mal à l'imaginer. Mais quand vous allez nous le détailler, on va bien comprendre l'utilisation par les nazis de la musique, avec peut-être le besoin de replacer la musique dans les camps, dans un univers beaucoup plus large, qui est l'univers culturel de ceux qui gardent les camps, de ceux qui les dirigent. Ce sont des Allemands qui sont de cette première moitié du XXe siècle, dans un monde qui est baigné de musique.
Oui, il y a vraiment eu un véritable transfert culturel des SS qui avaient la charge des camps. Déjà, ils ont été beaucoup embrigadés par la musique sous le Troisième Reich, notamment dans les camps de jeunesse, de la jeunesse hitlérienne. Donc, ils sont venus avec ce bagage de la musique qui servait non seulement à embrigader, mais aussi qui permettait d'éviter que les gens ne se parlent, puisqu'ils passaient beaucoup de temps à chanter. Ils ont mis ça en application et puis ils ont aussi calqué le système carcéral que, pour la plupart, ils avaient connu sous la République de Weimar. Et donc, c'est vraiment un mélange d'une musique qui doit mettre au pas et rythmer le quotidien.
Mais parce que cette musique-là, c'est vrai qu'elle est présente partout dans ces sociétés, déjà depuis longtemps, mais au début du XXe siècle, savoir jouer un instrument, c'est quelque chose qui fait partie de l'apprentissage, de la bonne éducation. Donc, nombreuses savent jouer d'un instrument.
Oui, tout à fait. Et puis, encore une fois, la musique est vraiment essentielle dans la propagande du Troisième Reich. On récupère à la fois les auteurs du passé, on fait jouer des œuvres au présent qui doivent démontrer la grandeur, la supériorité culturelle de l'Allemagne. Et je pense que ça, effectivement, c'est une culture qui est essentielle pour comprendre toutes les pratiques musicales des SS et des personnes qui encadrent le camp.
Avec dans ces camps de concentration, la recherche de la musique. La musique, on le sait bien, ça ne laisse pas de traces en soi, sauf qu'il y a des écrits, sauf qu'il y a des témoignages. Il y a quelques photographies, on peut les évoquer, parce que photographies de l'orchestre d'Auschwitz, mais elles sont très peu nombreuses, ces traces-là.
Les seules photographies qu'on ait, il y en a une seule en fait qui est clandestine et toutes les autres sont des photos un peu officielles, en tout cas prises par des SS ou sur ordre des SS. C'est une façon de documenter, de montrer que finalement la vie, les conditions n'étaient pas si terribles puisque les gens pouvaient se distraire et utiliser de la musique. Donc ce sont vraiment des photos, les photos de l'orchestre d'Auschwitz, ce sont des photos plutôt à des fins de propagande.
Oui, Elise Petit, c'est vrai qu'il faut le rappeler sans cesse, des photographies prises à l'intérieur des camps, si elles ont été prises par les nazis, ce qui est le plus souvent le cas, sont toujours des photos qui minimisent l'horreur. Et puis parmi les sources, il y a évidemment les témoignages.
Le lendemain de mon arrivée à Birkenau, Auschwitz, je n'avais plus mon petit frère avec moi. Il était déjà sélectionné pour la chambre à gaz. Et tout à coup est arrivée une jeune femme qui n'était pas habillée avec les vêtements rayés. Elle était habillée correctement, avec des bottillons. Elle avait un fichu sur la tête. Et elle m'est apparue comme un ange. Parce que à ce moment-là, précisément, je pleurais en me disant que jamais je ne jouerais du violon. Du jamais. C'était une idée enfantine, d'ailleurs. Pourquoi pleurer dans un endroit pareil? Et puis, elle est arrivée près de moi et elle m'a dit: c'est vrai que tu joues du violon? Je dis, mais c'est incroyable. Je dis, mais oui, je joue du violon, mais pas question que je joue pour les Allemands. Elle me dit, tais-toi et viens avec moi. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans l'orchestre. On m'a donné un violon pour auditionner. Et puis, en pleurant, en inondant ce violon de larmes, j'ai joué la Chaconne de Bach. Merveille. C'était peut-être la seule chose que je voulais réentendre. Et je pleurais. Toutes les femmes pleuraient autour de moi.
Témoignage de Sylvia Shulamit-Kalef, c'est la Chaconne d'Auschwitz, le titre du film de Michel Daherou en 1999. Élise Petit, à partir de quel moment entend-on de la musique dans ces camps? Parce que nous associons, et c'est tout à fait logique, ces camps à la Seconde Guerre mondiale, mais il faut rappeler que le système concentrationnaire est antérieur au début de la guerre.
Tout à fait, les premiers camps ont ouvert au début de l'année 1933 et c'était des camps qui étaient destinés avant tout aux opposants politiques. Et quand il y avait des juifs dans ces camps-là, ils étaient incarcérés parce qu'ils étaient des opposants politiques. Et immédiatement, il y a eu de la musique parce que justement les SA ou les SS qui en avaient la charge ont transposé ce fonctionnement militaire qu'ils avaient. Et quand les détenus devaient partir au travail, eux, ils étaient eux-mêmes habitués pendant leur déplacement à chanter pour marcher au pas. Et donc, ils ont immédiatement imposé ce système. En attendant qu'il y ait des instruments, les prisonniers chantaient. Et très rapidement, ils ont autorisé les détenus à se faire envoyer des instruments par leur famille. C'est comme ça que les premiers instruments sont arrivés dans les camps et que les premiers ensembles ont été créés.
On l'entend dans ce témoignage, il y a la recherche de personnes qui sont capables de jouer des instruments. C'est un vrai souci des nazis d'avoir de la musique dans les camps.
Oui, et il y avait même des véritables auditions qui étaient menées alors par les chefs d'orchestre qui étaient eux-mêmes des détenus, mais qui, quand un convoi arrivait, passaient dans les baraquements des nouveaux arrivants en demandant est-ce qu'il y a un violoniste, est-ce qu'il y a un trompettiste, et qui faisaient passer des auditions pour intégrer l'orchestre, c'est ce qu'on entend dans ce témoignage.
C'est toujours très impressionnant d'imaginer cela parce qu'on n'imagine pas le système concentrationnaire associé à la musique, mais vous venez de nous le dire, il y a cette utilité de la musique. C'est-à-dire qu'elle rythme la journée, un peu ambiance marche militaire pour les sorties, les entrées. Donc la musique, elle est destinée à qui en fait ? Celle qui est jouée ? C'est destiné par exemple aux militaires, aux nazis qui sont chargés de garder les camps ?
Non, c'est vraiment une musique utile. Quand elle est utilitaire, elle est destinée aux détenus. Par contre, le soir, lorsque les SS regagnaient leur garnison, parce qu'ils ne vivaient pas dans les camps, ils vivaient à côté, il pouvait arriver que pour des fêtes, ils embauchent des détenus à leur service pour jouer pour leurs soirées privées. Et il est arrivé aussi à Auschwitz 1 que le commandant du camp fasse jouer l'orchestre des détenus pour ses invités de marque. Le dimanche après-midi, par exemple, dans les garnisons aussi.
Et puis vous nous l'avez bien dit, hein, il y a la musique, ça c'est une chose, et puis il y a le chant qui est une autre forme de porter la musique quand on n'a pas d'instrument, parce que toutes ces questions-là, celles de trouver des instruments, celles d'être dans un orchestre, préoccupent les nazis. Cet aspect de répression constante à travers la musique, c'est pas uniquement rythmé, comme on vient de le dire, les marches de sortie et d'entrée. À quoi ça sert la musique comme oppression ?
Alors la musique a été utilisée de façon très perverse aussi pour accompagner les crimes, pour augmenter encore les violences, pour manipuler également. Et il y a des exemples, je pense, qui sont assez importants, et Élise pourra confirmer, d'accompagnement en musique des exécutions. Donc on fait jouer de la musique par des détenus au moment où on fait déambuler par exemple dans le camp un prisonnier qui est mis à mort et au moment de sa mise à mort. Donc il y a quelque chose de complètement pervers dans l'utilisation de la musique qui humilie, détruit encore plus psychologiquement. Et là on est clairement dans le domaine de la torture. Il y a aussi ces exemples de chants antisémites qu'on faisait chanter à des prisonniers juifs qui étaient aussi une forme de torture psychologique.
C'est cette torture-là qui joue sur le décalage sidérant entre le lieu et ce que l'on y voit, et puis ce que l'on y entend. J'attendrai toujours. Expliquez-nous, Élise Petit, pourquoi on entend ça aujourd'hui ? Parce que le chant qui est là, dans les camps, on ne l'a pas entendu.
Voilà, en fait, c'est un exemple très précis de torture en musique. C'est l'exécution du prisonnier qui s'appelait Hans Bonarevitz, qui a eu lieu en juillet 1942. Après son évasion du camp de Mauthausen, il a été repris par les SS. Et le commandant du camp a décidé, pour une fois, d'organiser une véritable cérémonie de propagande qui a été documentée, prise en photo sur ordre pour les SS, qui a même fuité dans la presse, mais de façon volontaire, pour que les gens voient que quand on essayait de s'échapper des camps, on était systématiquement repris. Donc il y a eu toute une mise en scène, et ce détenu, Bonarevitz, a dû véritablement parader dans le camp, devant les détenus. Et cette chanson a été choisie exprès, d'abord parce qu'elle était très populaire et que les SS l'aimaient beaucoup, mais aussi parce que les paroles parlaient, dans la version allemande, d'une fiancée qui attend avec impatience le retour de son bien-aimé. Et ça faisait complètement écho à la situation de ces détenus qui avaient dû rester debout des heures durant en attendant que Bonarevitz se soit rattrapé. Alors, il n'y avait pas de chanteur dans cet orchestre, donc ça a été joué uniquement en version instrumentale. Mais évidemment, tout le monde connaissait cette chanson. Et même aujourd'hui encore, si un Français l'entend, il y a les paroles qui s'inscrivent dans son cerveau. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment un exemple d'ironie torsionnaire.
Oui, c'est de la cruauté, hein. Cécile Quesnay, elle est là, cette cruauté de jouer des airs légers au milieu de l'horreur.
Oui, tout à fait. Je pense que ça fait partie du système destructeur nazi. Mais il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de résistance par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà plusieurs musiciens, musiciennes qui ont refusé d'intégrer des orchestres parce qu'ils ne voulaient absolument pas faire partie de ce système. Et on a des exemples à Ravensbrück où il n'y avait pas d'orchestre d'ailleurs véritablement dans ce camp. On sait que des musiciennes, c'était un camp de prise de femmes, on sait que des musiciennes ont refusé de faire partie d'un orchestre, enfin ont refusé de faire partie de ce jeu et de cette utilisation perverse de la musique.
Et ce jeu pervers, vous avez parfaitement raison de le dire parce que c'est tout à fait ça. Un jeu pervers et puis un outil de contrainte parce que faire chanter des gens, c'est aussi les empêcher de parler.
Voilà. Et en plus, ce dont on se rend compte, même avec cette musique qui se servait à rythmer les départs et les arrivées, c'est que oui, il y avait l'aspect contraignant de marcher au pas, mais là où la musique était très destructrice, c'est qu'elle contraignait à adopter un pas assez soutenu, et notamment les témoignages des survivants qui racontent le retour des commandos le soir où ils devaient porter les personnes qui étaient mortes dans la journée, donc ils avaient une charge supplémentaire, plus l'épuisement, le fait de devoir suivre un pas, c'était déjà en soi destructeur.
Il y a une torture physique aussi. Voilà. La musique, ça touche au corps, hein. Ça fait bouger, ça conduit le pas, ça conduit la marche. Et puis, il y a ce cynisme très très fort. Parce que Élise Petit, quand on entendait « J'attendrai ton retour », c'est vrai que ça nous vient en tête et c'est l'évocation d'un monde d'avant, d'un monde ailleurs. Et là, il y a ce jeu qui est pervers, nous l'avons dit, avec ces nazis qui, eux, peuvent sortir du camp et aller retrouver ce monde.
Et c'est ça qui est très marquant quand on regarde toutes les musiques qui ont été jouées dans les camps, c'est que c'est pratiquement exclusivement des musiques très joyeuses.
Oui, c'est des musiques joyeuses et c'est des musiques qui sont portées aussi par le goût des nazis parce que on pourrait s'attendre à trouver de la musique allemande avec les grands noms de cette musique-là, mais ce n'est pas le cas.
Alors, il y en avait, mais dans d'autres occasions. Par exemple, quand le commandant du camp faisait jouer l'orchestre pour ses invités de marque, là, c'était de la musique allemande. On ne sait pas dans quel camp d'Auschwitz ça a été joué, mais en tout cas, il y a la partition de la 5e de Beethoven dans les archives avec le tampon qui dit que ça appartenait à un des orchestres d'Auschwitz. Donc il y a eu même, alors ça c'était très rare parce que les juifs n'avaient pas le droit d'en jouer, mais il y a eu des camps de concentration dans lesquels il n'y avait pas de juifs dans l'orchestre qui ont joué du Wagner pour certains concerts.
Ah oui, on retrouve ça quand même. Quand vous évoquez cette histoire-là, et toutes les deux, vous insistez sur les camps, les différents camps, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose d'uniforme, la pratique de la musique dans les camps nazis.
Alors c'est vrai qu'il y a vraiment eu une différenciation entre les camps de concentration et les centres de mise à mort que les nazis appelaient les camps d'extermination. Les centres de mise à mort, en théorie, il n'y avait pas de détenus qui auraient dû y vivre, puisque c'était des endroits où il y avait une mise à mort industrielle, et c'était évidemment avant tout des juifs et des Sinti et des Roms. Ils arrivaient, ils étaient conduits aux chambres à gaz, et ils étaient immédiatement exécutés. Mais dans ces camps, il y avait quand même des équipes de travail, on les appelait les juifs du travail, qui étaient chargés de traiter les cadavres, c'est-à-dire arracher les dents, couper les cheveux, et ces gens-là donc travaillaient et avaient accès à une vie musicale qu'on a découverte très tard parce qu'il y avait très très peu de témoignages et ils avaient même un orchestre à Treblinka avec des costumes qui jouaient du jazz pour ces gens-là, pour éviter en fait aussi les révoltes.
Ah oui, parce qu'il y a aussi ce maintien par la musique comme petite soupape, micro-échappatoire. Et puis ça doit dépendre aussi du directeur du camp, parce que vous nous parlez d'orchestre, mais faut bien quelqu'un qui autorise l'orchestre.
Ça dépendait complètement du commandant. Et c'est pour ça que finalement, sur l'orchestre de Ravensbrück, on n'a jamais vraiment su. C'est vrai que certaines survivantes ont dit qu'elles avaient refusé de jouer, mais il y aurait pu avoir un orchestre malgré tout. Moi, l'hypothèse que j'ai faite, c'est que c'était un camp qui était dirigé par une femme, donc une auxiliaire SS, et qui n'était pas passée par cet embrigadement militaire. Donc ça pourrait être une des raisons pour lesquelles il n'y aurait pas eu d'orchestre. Mais normalement, tous les autres camps avaient des orchestres. C'est vrai qu'en fonction de la mélomanie du commandant, les statuts étaient très différents. Le commandant adjoint de Buchenwald était extrêmement mélomane et l'orchestre était très développé. À Dachau, il accordait beaucoup moins d'importance, il y a beaucoup moins d'activité.
Et à Buchenwald, justement, c'est vraiment un exemple de grande activité pour un camp de concentration, puisqu'on sait qu'il y avait différents orchestres. Il y avait notamment un quatuor à cordes par un chef d'orchestre et violoniste Maurice Hewitt, français, résistant, qui a récupéré un violon. Il y a eu un orchestre de jazz fondé par Yeri Zak. Et ça, c'était vraiment des musiques qui étaient autorisées dans une certaine mesure, mais qui étaient aussi jouées le soir clandestinement. Et on voit bien aussi qu'il y a une porosité et des pratiques qui peuvent être plus ou moins autorisées, encadrées, et aussi des pratiques complètement clandestines.
Oui, parce que c'est vraiment ça, aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, cette musique contrainte ou cette musique résistante, avec toujours des témoignages.
Tout d'un coup, dans cette espèce d'horreur, j'ai entendu les mots « Madame Butterfly ». Alors d'abord, je me suis dit que ou bien j'étais morte, ou bien j'étais devenue folle, ou bien... Comment ça se fait, Madame Butterfly? Et alors, je ne comprends pas du tout le polonais. Et il y a une fille qui m'a dit, mais on cherche des musiciennes. Et il paraît, une petite Française a reconnu quelqu'un ici, qui paraît-il a une très jolie voix et chante Madame Butterfly. Moi, j'ai dit, mais c'est moi, probablement, parce que moi, j'avais une voix très, très élevée, enfin, et je chantais Madame Butterfly. Alors, j'ai baissé la tête, toute rasée, et j'ai dit, moi. Alors... Elle m'a précédée, moi j'étais du pied, il y avait de la neige, je mesure 1m50, il y avait 1m40 de neige. Et je suis arrivée dans un bloc, et je me suis mise au piano, et je me suis mise à chanter, n'est-ce pas? Elles étaient toutes autour du piano, à écouter. Et puis alors, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait, ce qu'il fallait faire. Et elles m'ont dit, bon ben c'est tout, tu ne sais pas chanter autre chose. Et j'ai chanté une autre chanson. J'ai chanté une chose qui était très à la mode à l'époque, qui s'appelait « Quand le printemps vient » de Peter Kreider. Wenn es Frühling wird und die Sonne scheint, denk ich nur von dir. Wenn in tiefer Nacht eine Geige weint, denk ich nur von dir. Dis-toi que dans tous mes rêves, je ne vois que toi, que je t'attendrai sans trêve, seule sous mon toit. Quand le printemps vient, mon cœur se souvient des joies et des beaux jours de notre amour.
Fania Fénelon, en 1973, sur France Culture. Elle est l'autrice de Sursis pour l'orchestre dans ces années 1970, qui est un moment aussi de cette histoire-là, parce que son histoire a connu un succès populaire. En tout cas, ça a diffusé une certaine image de la musique dans les camps.
Alors, ce qui est très intéressant, là, c'est de l'entendre vraiment chanter ce qu'elle a chanté à l'époque. C'est un témoignage qui a un intérêt, mais il faut le prendre avec beaucoup de recul parce qu'il est extrêmement romancé et il est plein de choses très très inexactes. Et notamment, elle règle beaucoup de comptes avec des détenus avec lesquels elle ne s'entendait pas. Et elle invente beaucoup de choses sur la chef de l'orchestre Alma Rosé. Donc c'est vraiment à prendre avec une grande distance, ce témoignage.
Oui, puis après ça a été mis en film et il y a là aussi une vision du camp très particulière.
Ouais. Et elle-même a détesté l'adaptation en film parce qu'elle la trouvait très irréelle.
Dans ce qui est évoqué ici, il y a comme une échappatoire qui se présente au moment où l'on demande à, parmi les gens qui sont là, qui sait jouer de la musique, qui sait manier un instrument. C'est aussi une possibilité. C'est d'ailleurs très étonnant, au moment de l'arrivée dans un camp, d'entendre « Est-ce que vous savez jouer du violon ?»
Oui, et puis il y en a même qui témoignent qu'effectivement, elles étaient très heureuses. Anita Lasker-Wallfisch était très heureuse d'avoir un contact à nouveau avec un instrument, même si évidemment, ça posait beaucoup de questions sur le fait de devoir jouer pour les Allemands ou de devoir jouer dans des situations qui épuisaient les co-détenus. Mais en tout cas, il y avait de tout. Il y avait des amateurs, des amatrices, des professionnels, mais il y avait une partie des personnes qui se reconnectait à sa vie d'avant grâce à la musique qu'elle pouvait jouer.
Encore faut-il des instruments ? Ça, c'est toute la question aussi. Alors, ces instruments, ils arrivent comment dans les camps ?
Mais justement, en 1933, ils sont beaucoup envoyés par des familles de détenus. Il y a aussi des spoliations. Quand des détenus arrivaient avec leur instrument et qu'il leur était pris et mis dans la chambre des effets. Et puis, il y a eu un des cas très, très particuliers, mais notamment à Mauthausen, où un luthier était dans le camp et a fabriqué de mémoire une contrebasse. Donc ça, c'est plus rare, mais c'est arrivé aussi.
Cécile Kenney, vous avez particulièrement travaillé sur Ravensbrück. Là aussi, c'est ce même phénomène. Il faut trouver des instruments et réussir à les accorder.
Oui, alors je pense qu'il y a eu assez peu, on en parlait tout à l'heure, assez peu de musique d'orchestre là-bas. On sait qu'il y a eu un concert au moins, ou quelques concerts par un quatuor. Mais c'était surtout de la musique vocale, là-bas, je pense, qui s'est faite. Pour revenir aux orchestres, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est des orchestres à géométrie variable et les sonorités de ces orchestres sont très particulières parce qu'en fait, ça va dépendre de ce qu'on a sous la main. Et l'iconographie, les témoignages qu'on a photographiques ou les dessins aussi des détenus montrent bien qu'en fait, on a des ensembles assez incroyables avec énormément de vent, des saxophones, des accordéons et donc ça ressemble pas non plus forcément à... ça ressemble à de l'orchestre militaire, mais avec un peu tout ce qu'on trouve sous la main. Et ça explique aussi des formes des instrumentations, des sons bien particuliers qui sont propres, je pense, aussi à la musique dans l'univers concentrationnaire.
Et d'ailleurs, c'est tout le problème quand on a fait l'exposition sur la musique dans les camps au mémorial de la Shoah. La question s'est posée des recréations. Et justement, pour cette marche militaire qui était jouée au départ et au retour des commandos à Buchenwald, on a passé une commande à une fanfare amatrice de très bon niveau en leur demandant d'utiliser les mêmes instruments que sur les partitions, avec un enregistrement un peu de plein air pour qu'on se rapproche au mieux de ce qu'on pouvait entendre. Parce que parfois, on entend des enregistrements d'orchestres symphoniques de très bon niveau, avec un son impeccable, et ça ne rend pas du tout compte de ce que ça pouvait donner à l'époque.
Puis tout le monde ne devait pas être parmi l'élite de la musique, et ce sont des orchestres faits un peu avec tout ce qui est possible sous la main.
Tout à fait, les niveaux sont très hétérogènes, forcément. Et donc, à mon avis, ça donnait des choses incroyables. Mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de solidarité, d'apprentissage par le collectif, par l'entraide, etc. Donc, c'est effectivement des orchestres très particuliers. Et puis c'est pareil pour les voix aussi, parce qu'on est obligé à chanter, mais tout le monde ne savait pas bien chanter. Il faut se dire que les pratiques d'amateurs, en fait, sont essentielles, en fait, dans la musique dans les camps.
Oui, c'est ça, hein, parce que beaucoup d'amateurs, et puis aussi quelques grands noms, et ça, on va pouvoir y revenir. Ambiance fanfare, Élise Petit, que venons-nous d'entendre ?
Alors, ça s'appelle l'entrée des gladiateurs Et c'est une marche militaire de 1897 qui avait été composée par Julius Fucsik, qui était le chef de fanfare de l'armée austro-hongroise. C'est une musique qui s'est très rapidement popularisée, qui a voyagé jusqu'aux États-Unis, où elle a été immédiatement adaptée pour le cirque. Et elle était connue donc dans l'Allemagne nazie à la fois comme une musique de cirque, mais d'abord comme une musique de marche militaire. Et c'est en tant que telle qu'elle a été exécutée par les orchestres, notamment celui de Buchenwald, le matin, pendant que les commandos se mettaient en place sur la place d'appel et qu'ils allaient vers la porte du camp pour sortir. Ils étaient accompagnés par cet orchestre, ils devaient marcher au pas. Et ensuite, quand ils passaient la porte, ils devaient chanter, puisqu'évidemment, l'orchestre restait dans le camp, n'était pas un orchestre itinérant. Et cette extrait, je trouve que c'est l'exemple le plus parlant de l'aspect destructeur de la musique et surtout de l'aspect destructeur à long terme. Parce que tous les gens qui ont été dans le camp et qui ont entendu cette musique au moment où ils devaient marcher au pas dans la souffrance, à chaque fois qu'ils ont été au cirque après la guerre, il y a eu ce syndrome de stress post-traumatique qui faisait que le cerveau les ramenait immédiatement à l'intérieur du camp. Donc c'est un exemple très très parlant des dommages que peut exercer la musique des années après un traumatisme sans que ça ait été pensé sur le moment.
Et Cécile Kenel, vous nous le disiez, les oreilles n'ont pas de paupières, on ne peut pas échapper à la musique. Et puis la sortie du camp se fait avec cette fanfare jouée par l'orchestre, mais après il faut poursuivre en chantant. C'est-à-dire qu'il y a même l'intégration là de cette oppression par la musique. En plus, une musique monstrueuse dans les conditions dans lesquelles elle est exécutée.
Oui, tout à fait. Et je pense qu'il faut avoir conscience de cet aspect destructeur, du fait qu'il y avait tout un tas de chansons allemandes imposées qui sont ces voix du lager, hein, comme dit Primo Levi, qui sont complètement incrustées dans la mémoire, parce que les chansons, on le sait, on en fait tous l'expérience, ce sont des éléments de la vie qu'on garde parce qu'il y a un texte. Et ça permet d'ailleurs aussi cette mémoire sonore, ça a permis énormément aux prisonniers et prisonnières des camps de recréer à partir de chansons. Et on pourra peut-être parler de ça tout à l'heure, des chansons sur l'air 2.
Mais oui, c'est ça qui est très important aussi, parce que la musique, parfois, on ne l'entend pas. Elle est dans notre tête et il suffit de fredonner à l'intérieur de nous-mêmes pour que la musique soit présente dans un contexte évident de peur.
Un sentiment physique de peur. J'aurais ça très facilement, par exemple, au cirque. Beaucoup plus que dans des histoires comme celle-là, comme Ravensbrück. Et au fond, je crois que la peur est un sentiment qui vous atteint lorsqu'il n'y a aucune action possible. Je n'ai eu peur à Ravensbrück que lorsqu'il n'était tout à fait impossible d'intervenir. Toutes les fois qu'il y avait la plus petite chance d'action, l'action efface la peur. Au fond, ce qui nous a soutenus, c'était la colère, l'indignation. Je dois dire que j'étais indignée. Et l'indignation, évidemment, m'a soutenue.
Germaine Tillion qui s'exprime en 1964. Cécile Kenel, on peut rappeler qui est Germaine Tillion.
Oui, alors Germaine Tillion, c'est vraiment une figure très importante qui est d'ailleurs entrée au Panthéon en 2015. C'est avant tout une grande ethnologue, spécialiste du monde arabo-berbère. C'est une résistante qui fait partie du réseau du Musée de l'Homme, qui a ensuite œuvré pour la paix en Algérie, qui s'est engagée contre la torture, contre toute forme d'injustice. Et ce témoignage montre bien, c'est quelqu'un qui a toujours été dans l'action, guidé par un humanisme exceptionnel, une force de proposition. Voilà, c'était une personnalité vraiment unique, mais qui avait aussi énormément de culture, énormément d'humour. Donc juste pour retracer un petit peu, elle est résistante, donc elle rentre en fait de son terrain de thèse où elle est à la fin des années 30 en Algérie pour étudier les Berbères des Aurès. Elle rentre au moment de la défaite puis de l'occupation allemande et elle fait partie donc des résistants de la toute première heure au Musée de l'Homme. Elle est arrêtée en août 42. Ensuite, elle est emprisonnée puis déportée en octobre 43 au camp de Ravensbrück. Et elle reste 18 mois à Ravensbrück. Elle est évacuée avec un grand nombre de détenus par la Croix-Rouge suédoise en avril 45. Et il faut savoir que pendant toute cette déportation, ces 18 mois très longs à Ravensbrück, eh bien, malgré l'enfer du camp, elle continue à faire son métier d'ethnologue. Elle continue à résister également, en refusant de travailler pour les nazis. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel dans son parcours, parce qu'elle, c'est vraiment une ethnologue en camp de concentration.
Et elle résiste par la musique.
Travaille, l'os, schnell, auf, Serine !
M'en fiche, je vous ai dit !
Mais on va t'envoyer en transport !
Moi ? Mais je ne pars pas en transport !
Pourquoi ?
Parce que je suis du bloc 32.
Pourquoi es-tu du bloc 32 ?
Parce que je suis NN.
NN, ça veut dire sûrement quelque chose.
Oui.
Nacht und Nebel. Nuit et brouillard.
Nous ne sommes pas ce que l'on pense. Nous ne sommes pas ce que l'on dit.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
En 2015, sur France Culture, justement, cette adaptation, mais de quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'une œuvre exceptionnelle. On vient d'entendre un extrait du Verfügbar aux Enfers. C'est une opérette revue, imaginée, écrite par Germaine Tillon avec des compagnes du bloc 32 où elle était à Ravensbrück et peut-être d'autres compagnes françaises, résistantes comme elle, qui est écrite au moment où elle est fin 44, cachée par ses camarades dans un grand entrepôt dans lequel elle travaille comme débardeuse. Et donc elle est cachée, on lui procure papier-crayon volé par l'intermédiaire de plusieurs de ses camarades, et elle écrit une œuvre exceptionnelle qui a vraiment plusieurs dimensions, qui est déjà une pièce de théâtre avec des morceaux musicaux, 26 morceaux de musique, qui est une œuvre pleine d'ironie, pleine d'autodérision. On a entendu un petit peu tout à l'heure dans l'extrait des Trois Valses, qui est une reprise d'une opérette connue des années 30 qu'elles vont s'approprier pour parler d'elles-mêmes, ces résistantes. Nous ne sommes pas ce que l'on pense, elles disent. Et puis c'est aussi une œuvre ethnographique sur l'étude de l'univers concentrationnaire nazi, un témoignage issu des camps. Et c'est aussi une œuvre de combat, une œuvre de résistance, de solidarité et de survie collective. Donc c'est vraiment une œuvre extrêmement puissante et qui a plein de dimensions. Voilà.
Oui, non, mais c'est là où l'on se rend compte que la musique est vraiment partout. Vous évoquez plein de dimensions, mais la musique dans les camps a plein de dimensions. Elise Petit, elle est partout, en fait, parce que de l'orchestre, et l'orchestre voulu par les nazis, à l'opérette rédigée, composée clandestinement, à la chanson qu'on se chante dans sa tête, il y a de la musique partout.
Tout à fait, et ça illustre très bien les différentes formes de résistance, parce que là, c'est la forme la plus politique et la plus dangereuse de résistance, cet exemple du Verfügbar aux Enfers, parce que vraiment, si elles avaient été découvertes en possession de ce texte, là, elles auraient été mises à mort, mais il y avait aussi des formes de résistance moins risquées, le fait de jouer, par exemple, une pièce de Mozart pour se rappeler la vie d'avant et sortir de l'univers de Barbarie, c'est une forme de résistance spirituelle aussi très importante, donc il y avait vraiment plusieurs degrés de résistance avec des risques de nature différente.
Oui, parce qu'on a évoqué les musiciens, les musiciennes amateurs, mais attention, il faut rappeler aussi qu'il y a des grands noms de la musique qui sont déportés, et là aussi ça rentre dans cette histoire-là. Je pense que ces grands noms de la musique sont tellement baignés de leur savoir que ça devient une habitude et tout n'est que musique pour eux.
Tout à fait. Il y avait Simone Lax, le chef de l'Orchestre des Hommes de Birkenau. Il y avait Alma Rosé, la chef de l'Orchestre des Femmes. Il y avait beaucoup de musiciens de grande qualité, assez peu de compositeurs, mais en tout cas, qui se sont servis de la musique pour tenir.
Oui, c'est ça, hein. C'est pour tenir en fait. Et on est passé depuis le début de l'émission à cette musique imposée par les nazis d'oppression, cette musique de contrainte, à une musique ici, on l'entend, de résistance. Je pense que dans les témoignages que l'on a, il y a ces deux aspects, mais qui sont très difficiles à mettre en avant. C'est ce que vous nous disiez, Élise Petit, dans un premier temps. Ben, bien sûr, c'est la musique de résistance qui a été entendue, racontée. La musique d'oppression était oubliée, mais pourtant elle était là, très présente.
Voilà, et puis c'était très compliqué pour des musiciens d'orchestre de dire, par exemple, qu'ils avaient joué pour accompagner des pendaisons, parce que à ces occasions-là, ils étaient rétribués en cigarettes ou en rations alimentaires supplémentaires. Et ça, dire ça à la fin de la guerre, les gens leur auraient dit « mais vous avez collaboré », donc c'était extrêmement dur d'en parler.
Oui, parce que les conditions étaient meilleures pour les membres d'un orchestre dans un camp.
Alors, ça dépend vraiment des camps, mais en tout cas, à Buchenwald et dans les camps de Auschwitz 1 et Birkenau, l'orchestre des femmes et l'orchestre des hommes, oui, il y avait des vrais avantages. Et l'orchestre des femmes de Birkenau, par exemple, les femmes avaient accès à l'eau, elles avaient droit à une douche par semaine, le bloc de l'orchestre était chauffé avec un petit poêle, et ça, ce sont des privilèges absolument vitaux.
Et puis, il n'y a sans doute pas le travail, ils n'étaient pas envoyés dans les commandos. On restait à répéter aussi un peu dans la journée.
Oui, ça concerne Buchenwald et Birkenau principalement, où effectivement l'orchestre devait répéter toute la journée, ce qui est une activité à part entière qui était aussi quand même très fatigante. Hein. Mais en tout cas, ils étaient au chaud. Et la plupart des camps, ils n'étaient pas dispensés de travail, mais par contre, ils étaient affectés à des commandos de travail plus considérés comme moins pénibles, où ils étaient en intérieur par exemple, où ils avaient accès à de la nourriture, parce que très souvent on les mettait au commando d'épluchage des pommes de terre qui était considéré comme le meilleur commando.
Cécile Quenet, vous avez co-écrit, co-dirigé l'ouvrage « Chanter, rire et résister » à Ravensbrück. Comment ça se passe justement pour les musiciens, les musiciennes de Ravensbrück?
À Ravensbrück, il y a eu des pratiques musicales qui étaient surtout vocales, on le disait tout à l'heure. Il y a eu globalement une vie artistique très importante dans ce camp pour femmes. Les Tchèques, par exemple, faisaient des spectacles, des pièces de théâtre. Les Polonaises, un remake d'émissions de radio. Il y avait chez les Françaises beaucoup de chansons folkloriques, il y avait une chorale. Mais là, tout ça, c'est clandestin. Et donc, les traces qu'on a, c'est principalement de la musique clandestine. Et parmi ces chansons, ces musiques clandestines, donc beaucoup de chansons, et beaucoup de chansons sur l'air d'eux. Donc, c'est le principe dans « Le Verfügbar aux enfers » de Germaine Tillon, c'est-à-dire qu'on prend des chansons connues, que les personnes ont en mémoire, et on remet des nouvelles paroles. Ce qui reste aussi énormément dans la mémoire, parce que d'ailleurs, on sait bien, on en fait l'expérience tous les jours, quand on se souvient du texte avec une musique, on garde en mémoire davantage ce texte. Et bien, des recherches ont montré que c'était pareil pour les musiques détournées avec réinvention de nouvelles paroles. Et donc ça permet aussi d'avoir cet espace de liberté, ce chant, qu'il soit murmuré, qu'il soit dit intérieurement, qu'il soit chanté le soir avec les camarades d'infortune dans les blocs, tout ça, eh bien, ça permet d'avoir un espace de liberté, un espace d'expression, et qui souvent, d'ailleurs, vient continuer la résistance pour les personnes, pour les NN, pour les personnes qui ont été arrêtées pour fait de résistance.
Et juste pour ajouter quelque chose sur Ravensbrück, c'est vrai que les documents qu'on a retrouvés, la directive de la responsable du camp stipule que le chant est interdit. Et ça, c'est assez rare par rapport à d'autres camps. Donc, on ne sait pas pourquoi, mais c'est aussi ce qui explique que les activités étaient très majoritairement clandestines, hormis le chant obligatoire, bien sûr, lors de la sortie du camp et du retour des commandos.
Oui, c'est ça. Hein, c'est vraiment très ponctuer ces moments de la journée avec des musiques et puis cette musique clandestine. On est dans les baraquements, mais ça s'entend de la musique à un orchestre, donc ça demande beaucoup de stratégie, de dissimulation. Et vous avez évoqué, Cécile Quenet, c'est polonaise, c'est tchèque, c'est française. Il y a aussi de la résistance en chantant des chansons de chez soi. Il y a quelque chose de patriotique ici.
Exactement. Et je pense que le paradigme national, il est très important aussi pour comprendre les pratiques culturelles musicales. Il est complètement corrélé aussi, évidemment, à l'engagement politique. Et on voit très bien dans des chansons, notamment dans les chansons du Verfügbar aux Enfers, qu'il y a une poursuite de l'engagement, un patriotisme et un espoir, en fait, de retour vers la patrie.
Oui, parce que ce moment de la musique, c'est aussi peut-être un moment d'échappatoire. C'est-à-dire que l'on sait que ce temps de musique, normalement, il ne devrait rien se passer.
Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir finalement comment la musique de résistance est arrivée. Et elle est arrivée parce qu'il y avait du chant imposé pour les déplacements. C'était des chants de marche en allemand que tout le monde devait chanter en allemand, même si c'était pas sa langue maternelle. Et l'argument qui a été utilisé par les déportés, c'est de dire, si vous voulez qu'on soit capable de chanter, il faut qu'il y ait des moments où on puisse apprendre les chants. Et c'est comme ça, en fait, que cette musique de résistance est arrivée, puisque ils ont eu le droit officiellement le soir de chanter pour apprendre les chants. Et progressivement, ils ont inséré d'autres répertoires.
Ouais, ils ont inséré d'autres répertoires parce que ici, il y a parfois un moment où se croise l'attente des déportés, c'est-à-dire peut-être un désir de respiration et de résistance, et puis l'oppression. Ce sont des chants très particuliers qui nous conduisent jusque dans les marais. Rosalie Dubois, le chant des marais, c'est la chorale populaire de Paris, l'orchestre de Michel Deveau, avec ici Élise Petit, une portée très profonde sur un chant qui est interprété d'une certaine manière. Il faut rappeler sans cesse que l'interprétation dans le camp n'est pas toujours celle que l'on peut entendre là maintenant.
Alors, ce qu'il a vraiment de très intéressant, ce chant, c'est que la version originale est en allemand, puisque c'est un chant qui a vu le jour dans un des premiers camps, qui s'appelait le camp de Bürgermoor, qui est dans la région de l'Emsland, qui est une région de tourbières. Et les détenus étaient employés, en fait, dans la journée pour assécher les tourbières. On a traduit ça en français par les marais. Ils se considéraient donc comme des soldats de la tourbière ou des soldats des marais. Et pour se remonter le moral, ils ont demandé l'autorisation au commandant du camp d'organiser un spectacle de cirque un dimanche jour non travaillé dans le camp. Ça leur a été accordé, il y a eu beaucoup de numéros qui ont été mis en place, et le dernier numéro, c'était ce chant composé pour l'occasion, où ils chantaient finalement la dureté des conditions de vie et puis l'espoir un jour de rentrer à la maison. Et ce chant a eu un retentissement énorme et un succès énorme, notamment auprès des SS, de façon plus inattendue, puisque les SS, étant donné le caractère un peu vague des paroles, se sont identifiés eux-mêmes comme soldats de la tourbière et ont demandé à des artistes de leur faire des partitions illustrées qui sont comme ça en fait sorties des camps. Et ce chant a connu une circulation très précoce parce que les premiers camps, on pouvait en sortir. C'était des camps qui parfois fonctionnaient comme des prisons. Donc le compositeur du chant, Wolfgang Langhoff, il a été libéré et en 1934, son témoignage sur les soldats des marais a été publié notamment en français. Il avait déjà la partition qui était reproduite. Donc le chant a énormément voyagé. Il est arrivé jusqu'en Angleterre en 1935 où quelqu'un l'a chanté devant un des plus grands compositeurs allemands de musique engagée qui était Hans Eisler. Hans Eisler, en entendant juste la voix sans accompagnement, l'a un peu arrangé à sa manière, et son chanteur fétiche qui s'appelait Ernst Busch, l'a immédiatement chanté, s'est engagé auprès des brigades internationales et lui-même a été incarcéré dans des camps français, notamment dans le camp de Gurs. Et c'est comme ça que pendant toute la guerre ont à la fois circulé la version originale du Burger Morlied et la version arrangée par Eisler qui a été ensuite traduite en français. Et ça, c'est la mélodie de la version arrangée d'Eisler. Donc c'est une circulation absolument incroyable d'une version à la fois concentrationnaire et extra-concentrationnaire dans le monde libre et en incarcération. C'est un exemple et c'est surtout c'est ce qui va inspirer tous les hymnes de camp. Presque tous les camps vont se doter progressivement d'un hymne, Buchenwald-Lied, Dachau-Lied, Auschwitz-Lied, toujours sur le même schéma, non pas mélodique, mais en tout cas de progression des paroles, la complainte et puis l'espoir d'une libération.
C'est vraiment étonnant de se dire que chaque camp avait son hymne.
Oui, et à Buchenwald, c'est l'hymne qui a été imposé, la composition a été imposée par le commandant, mais dans d'autres camps, c'était des compositions spontanées.
Oui, c'est ça. Il y a ce va-et-vient entre le désir de celui qui dirige le camp et puis faire comme les autres. C'est-à-dire que tout le monde a son hymne. Alors, c'est le cas aussi dans tous les camps et notamment à Buchenwald.
We are now singing together the Buchenwald song that was written yet in the time of so-called captivity, but was sanctioned by the authorities of Buchenwald.
Wenn der Tag erwacht und die Sonne mit Kolonnen zieht und ein klares Mann hinein in den grauenden Morgen und der Wald ist schwarz und der Himmel rot und wir tragen im Rostock ein Stückchen Brot und im Herzen die Welt.
Un enregistrement, ce chant de Buchenwald qui est conservé au musée mémorial de l'Holocauste à Washington DC, parce qu'il y a ça aussi, c'est collecter le document, il n'y a pas d'enregistrement dans les camps, donc la plupart de ce que l'on a c'est après. Vous nous disiez, Élise Petit, que à partir des partitions, parce que les partitions sont là, on peut en imaginant comment était l'orchestre et puis en se mettant à l'extérieur, recréer quelque chose avec les témoignages, mais il n'y a pas de document direct sonore.
Il y a eu un seul enregistrement qui a été fait par des détenus du camp de Westerbork qui ont été autorisés à sortir du camp pour aller à Amsterdam enregistrer en studio 6 chansons qu'ils avaient composées dans le camp de Westerbork. Donc c'est vraiment un document d'époque, pas dans le camp, mais ensuite ils sont rentrés dans le camp, ils sont morts en déportation. C'est le seul enregistrement véritablement.
Seul enregistrement avec ici ce moment qui est perturbant, et on le sent depuis le début, entre ces contrastes créés par les nazis, entre l'horreur et la légèreté de la musique, entre la musique qui est là pour opprimer et la musique qui est là pour libérer. Et puis, cette difficulté à se séparer de cette musique après, elle reste sans cesse dans les mémoires. Elle était là avant la guerre, parce que, comme vous nous le disiez, Cécile Quesnay, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. La musique, on n'arrive pas à s'en départir, et c'est tant mieux, la musique de notre enfance. Mais elle nous projette aussi dans ce monde-là. Et dans le cours de l'histoire, on reçoit des témoignages d'auditeurs, d'auditrices et qui nous disent sans cesse leurs expériences personnelles, et on retrouve la même chose de gens qui étaient moi j'ai un témoignage de quelqu'un qui était clarinettiste dans un camp, voilà, et qui a survécu et à qui l'on demandait est-ce que tu y penses souvent, et le monsieur répondait j'y pense toutes les nuits. Il y a ça aussi, c'est cette musique là qui et la toile de fond des souvenirs.
Et puis justement, quand même, la toile de fond, alors on ne sait pas vraiment comment cette musique a été enregistrée, mais quand même probablement dans le camp, hein, c'est le cas très particulier du camp de Theresienstadt, qui est près de la ville dans la ville de Theresien, près de Prague, où un film de propagande a été tourné, et la bande-son, entre guillemets, de ce film de propagande, fait quand même entendre, a priori, des enregistrements qui auraient probablement été captés dans le camp et qui servent d'accompagnement à ce faux documentaire qui était tellement mensonger et ça a été tourné à la fin de la guerre et il n'a pas rempli son utilité parce qu'il n'a finalement jamais été projeté.
Il n'a pas été projeté, c'était vraiment de la propagande pour dire dans l'écran ça se passe bien.
C'était pour faire croire que les Juifs étaient en fait dans des zones de villégiature où ils étaient bien traités.
Ouais, c'est ça, vraiment ce monde monstrueux, hein, oui, cette cruauté nazie. Nous continuons en musique.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous arrêtons à tous les pas.
Nous arrêtons à tous les pas.
Il prend d'ici dans la 5 villages.
Il prend d'ici dans la 5 villages.
Cueillons dans les clos des lilas.
Cueillons dans les clos des lilas. Nous avons rencontré des nanos en fatigue.
Des lapins prolifiques.
Des affronts vieux garçons.
Nous avons rencontré des poitrines
distinguées. Et des
cœurs de façon. Nous avons rencontré monsieur le maire et le curé.
La mère
Pierre
et son frère, leur sœur et sa
sœur. Nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en minage. Chacun voudrait en faire autant.
Le duo de Ciboulette, nous étions en 1927, Cécile Quesnay. Pourquoi ce duo de...
Alors, c'est une pièce qui, enfin, c'est un duo qui se retrouve dans le Fair Fugue Bar aux Enfers, qui est un grand collage de la mémoire sonore des différentes détenues autour de Germaine Tillon. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est des chansons sur l'air d'eux. Et donc, ce qu'elles ont fait, ces prisonnières autour de Germaine Tillon, c'est de réécrire des nouvelles paroles sur des airs connus. Et ce duo de Ciboulette fait partie de cette mémoire sonore, de ces airs connus. Il y a d'autres extraits d'opérettes qui sont cités dans le Fair Fugue Bar, aux côtés de chansons des années 30, de musique même qu'on a pu entendre au cinéma. C'est d'ailleurs le cas de Ciboulette qui a été donné aussi, porté à l'écran dans les années 30. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'ici, ce qu'on vient d'entendre, c'est le voyage bucolique de Ciboulette avec son conseiller sentimental. Et c'est complètement transformé par Tillon dans le Fair Fugue Bar aux Enfers en voyage gastronomique dans toutes les régions de France. Et en fait, c'est un moment où, dans la pièce, les détenus abordent quelque chose qui est vital, un sujet omniprésent aussi dans la littérature concentrationnaire, c'est la nourriture. C'est le manque de nourriture, la faim qui les tenaille en permanence. Et nous avons fait un beau voyage, c'est un beau voyage dans toutes les régions de France, où on voit que les détenus connaissaient très bien la cuisine de leur région, donc Avire-de-l'Andouille, Anis-la-Ratatouille, Aix-le-Calisson, etc. Et on a toutes ces paroles qui sont des fois reprises. Alors, on a le vers liminaire, nous avons fait un beau voyage. Et puis ensuite, tout ce qu'elles vont vouloir déguster. Et c'est une sorte de voyage imaginaire de retour dans le pays, en fait. Donc, c'est aussi vraiment un espoir à travers la cuisine, à travers la cuisine des régions, un espoir de retour au pays, toujours vers l'ouest, nous voguons, disent-elles dans cette chanson.
C'est ce jeu de la musique avec deux précisions peut-être à apporter. Élise Petit, la première, c'est est-ce que cette musique a pu sauver des gens ? Être dans les orchestres, ça sauve ?
Oui, puisque certains musiciens d'orchestre ont pu survivre grâce à aux privilèges qui étaient accordés. Et je pense que aussi, ce qu'il faut rappeler ici absolument, c'est que la musique n'a jamais été jouée dans les chambres à gaz.
C'était la deuxième chose.
C'est une légende qui circule encore. La musique a pu être jouée dans de très rares occasions pour accueillir, entre guillemets, certains convois et éviter des mouvements de panique, mais elle n'a jamais été jouée ni dans les chambres à gaz, ni en déambulation pour accompagner des gens à la chambre à gaz. C'est une idée totalement fausse.
Très important de l'avoir rappelé hein, pour terminer cette émission. La musique dans les camps nazis, c'est ce livre, hein, c'était l'exposition mémoriale de la Shoah. Et c'est ce livre, Élise Petit, Cécile Quesnay, merci à vous également avec vos travaux à retrouver hein, sur le site franceculture.fr. Merci beaucoup. Dernier mot laissé à Germaine Tillion.
Tout à fait à la fin. À un moment où, au fond, Je dirais que je trouvais, disons, agréable la pensée de mourir. Ça a été simplement la nécessité de témoigner qui a été l'élément de survie.
Finalement, la déportation ouvre une question sur l'homme, sur sa nature, sur ce qu'il est.
C'est une question insoluble. Je ne peux pas répondre à des questions aussi compliquées. L'homme, c'est tout. Le pire est le meilleur.
Germaine Tillion, en 1974, c'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission réalisée magistralement par Thomas Beau, avec aujourd'hui à la technique François Saint-Jour. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Chloé Rouillon, Maïwenn Guizhou, Jeanne Coppet et Tom Umdenstock. Le cours de l'histoire, trouvé à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.